Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une ce soir aux États-Unis, le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden a lieu cette nuit à la télévision. Il sera observé de près à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle.
La Turquie intervient-elle militairement dans le Haut-Karabakh ? Ankara est accusée d'avoir détruit un avion de combat arménien. Les forces arméniennes qui s'opposent aux forces d'Azerbaïdjan dans cette région séparatiste.
Et puis bientôt, vous ne devriez plus pouvoir voir des lions ou des éléphants. Dans des cirques en France, des mesures en faveur du bien-être animal ont été annoncées aujourd'hui.
Le journal en français facile.
Donald Trump ou Joe Biden à la Maison Blanche en novembre prochain. Les deux candidats s'affrontent dans un premier débat cette nuit.
Oui, des dizaines de millions de téléspectateurs sont attendus aux États-Unis et partout dans le monde à partir d'une heure du matin temps universel. Le débat doit durer 1h30. Il va se dérouler depuis Cleveland dans l'Ohio. C'est un rendez-vous, ce débat incontournable de la campagne, et cela dure depuis 60 ans. Il y a 60 ans, en effet, c'était le premier face-à-face télévisé aux États-Unis. C'était entre John Fitzgerald Kennedy et Richard Nixon. Rendez-vous incontournable donc, mais fera-t-il basculer l'élection ? L'impact sur le scrutin est considéré comme limité. Cependant, des indécis, il y en a aux États-Unis à 35 jours maintenant de la présidentielle. L'envoyé spécial de RFI à Cleveland, Anne Corpé, est allé à la rencontre de ceux qui hésitent encore à voter Donald Trump ou Joe Biden. Reportage.
Karine Caputo a fait du porte-à-porte pour la campagne d'Obama en 2008, mais elle a été déçue par le président démocrate et en 2016, elle a voté Donald Trump. Il fallait lui donner sa chance, explique cette franco-américaine de Cleveland. Karine n'est pas encore tout à fait certaine de son choix pour l'élection de novembre prochain, mais elle espère que le débat de ce soir va enclencher une nouvelle dynamique entre les candidats.
Il n'y a pas un bon climat, il y a un climat toxique aux États-Unis entre les républicains et les démocrates. Et donc j'espère que ce débat va refléter une attitude un peu plus respectueuse des deux côtés, quoi. J'aimerais bien voir qu'il y ait plus de collaboration et de coopération, moins de polarisation, parce qu'il y a beaucoup de choses, des valeurs du côté républicain et démocrate où on peut s'accorder. J'espère que le débat de ce soir va refléter un petit peu comment on peut travailler ensemble.
Mike, son mari, est lui quasi certain de voter pour Donald Trump, mais il va observer attentivement la performance du candidat démocrate.
Joe, c'est un mec sympa, mais je suis pas convaincu qu'il est à la hauteur du job proposé. Je pense que ses capacités ont diminué. Il a besoin d'aide pour répondre aux questions et perdre la mémoire.
Ça vous inquiète s'il est élu?
Ben oui. Oui, c'est très important quand même.
Si Donald Trump est agressif, c'est parce qu'il est constamment attaqué par les démocrates, explique Mike, qui aimerait lui aussi voir un peu plus de civilité dans les échanges entre les candidats. Anne Corpé, Cleveland, RFI.
Voilà, à suivre donc cette nuit.
Et les combats se sont poursuivis ce mardi dans le Haut-Karabakh.
Nous vous parlions de ce conflit hier soir dans le journal en français facile. Il oppose les forces d'Azerbaïdjan aux forces arméniennes. Le Haut-Karabakh est une région séparatiste d'Azerbaïdjan, peuplée en majorité d'Arméniens. Alors les affrontements ont repris depuis dimanche. En trois jours, le bilan est d'au moins 96 morts. Et aujourd'hui, c'était peut-être un tournant dans le conflit, puisque l'Arménie affirme qu'un de ses avions militaires a été détruit par un avion de chasse turc. La Turquie soutient de l'Azerbaïdjan, mais qui officiellement n'est pas impliquée militairement. Détail avec Yelena Tomic.
Selon la porte-parole du ministère arménien de la Défense, l'avion de combat Sukhoi 25 a été abattu par un chasseur F-16 turc dans l'espace aérien arménien alors qu'il menait une mission militaire et son pilote est décédé. Démenti formel d'Ankara qui évoque, je cite, des assertions mensongères. Comme les jours précédents, l'Arménie et l'Azerbaïdjan affirment s'être infligés de lourdes pertes humaines qui se chiffreraient par centaines. Les autorités arméniennes accusent en outre le camp adverse d'avoir tué un civil dans une attaque de drones et d'artillerie à Vardenis, une localité située sur le sol arménien à une vingtaine de kilomètres de la frontière. L'Azerbaïdjan accuse de son côté l'armée arménienne d'avoir bombardé la région de Dacheskan depuis Vardenis, ce que réfute Erevan. Malgré les pressions internationales et les appels à un cessez-le-feu immédiat, les parties en conflit excluent tout dialogue. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce mardi soir pour tenter d'éviter une guerre ouverte qui risquerait de déstabiliser la région et d'y entraîner la Turquie et la Russie.
Yelena Tomic, et cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU devrait débuter dans une heure à New York.
En Russie, un verdict très lourd prononcé aujourd'hui à l'encontre de Youri Dmitriev.
Oui, cet historien russe qui est connu pour ses révélations sur le goulag et la répression à l'époque de Staline. Il est accusé d'abus sexuels sur sa fille adoptive. Ce sont des faits qu'il a toujours niés. Il a été condamné à 3 ans et demi de prison en première instance. Et aujourd'hui, c'est la peine en appel qui a été communiquée. Et cette peine est beaucoup plus lourde puisque Youri Dmitriev a été condamné à 13 ans de prison. C'est une décision condamnée par les ONG de défense des droits de l'homme qui dénoncent un procès politique à Moscou pour RFI. Daniel Vallot.
C'est un coup de massue pour Youri Dmitriev, bien sûr, mais aussi pour l'ONG Mémorial, qui soutient l'historien depuis le début de ses déboires judiciaires. Condamné à 3 ans et demi de prison en juillet pour des faits qu'il a toujours niés, Youri Dmitriev avait purgé l'essentiel de sa peine en détention préventive et devait donc sortir de prison en novembre prochain. Mais avec cette nouvelle décision, la Cour suprême de Carélie donne raison au parquet qui réclamait une peine de prison bien plus lourde que celle prononcée 2 mois plus tôt. Le calvaire va donc se poursuivre pour l'historien. Nous sommes sous le choc, mais nous continuons malgré tout à espérer que justice soit rendue et que Youri puisse être acquitté, a déclaré à RFI Irina Galkova de l'ONG Mémorial. L'organisation de défense des droits de l'homme estime que Youri Dmitriev est victime d'un procès politique et a l'intention de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Âgé de 64 ans, Youri Dmitriev est considéré comme l'un des plus grands spécialistes russes du goulag. Ses recherches ont notamment permis la découverte du site de Sandarmor où furent exécutés plusieurs milliers de personnes à l'époque soviétique. Daniel Vallot, Moscou, RFI.
En France, un plan annoncé aujourd'hui en faveur des animaux sauvages qui vivent en captivité.
Oui, la captivité, c'est le contraire de la liberté. Donc là, on parle d'animaux qui font partie d'un cirque ou encore on parle également des delphinariums. Ce sont d'énormes aquariums dans lesquels on retrouve des dauphins. Depuis plusieurs années, les défenseurs des animaux réclamaient des mesures pour davantage de bien-être animal. Ces mesures donc ont été annoncées aujourd'hui par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Explication Lucie Bouteloup.
Fini le spectacle de dresseurs de lions ou d'éléphants sous le chapiteau. Fini aussi les dauphins et les orques sautant depuis leur bassin dans des cerceaux. Les cirques itinérants et les 3 dolphinariums du pays vont devoir s'y faire puisque Barbara Pompili entend bien y faire interdire progressivement la présentation d'animaux sauvages ainsi que la reproduction et l'introduction de nouveaux orques et de dauphins. Autre mesure attendue par les défenseurs de la cause animale, l'interdiction de créer de nouveaux dolphinariums en France et aussi la fin d'ici 5 ans de l'élevage de visons d'Amérique pour leur fourrure. Des décisions qui, selon la ministre, vont dans le sens du changement de perception que nous avons aujourd'hui de l'animal sauvage. Pour l'instant toutefois, aucun délai précis n'a encore été annoncé pour la mise en œuvre de ces mesures. Des mesures d'ailleurs qui ne concerneront que les animaux dans les cirques en itinérance et donc pas les autres spectacles présentant des animaux sauvages.
Lucie Bouteloup, 22h bientôt 9, ici à Paris, en tennis. Les déceptions qui s'accumulent pour les Français à Roland-Garros. On va retrouver Eric Mamrud qui est en direct de Roland-Garros pour RFI. Eric, la journée a encore été très difficile pour les tricolores.
On peut parler de Bérésina ou de déroute tricolore aujourd'hui. En effet, sur les 9 qui ont joué, 8 ont perdu. 6 chez les hommes, c'est-à-dire tous, Harold Maillot, Quentin Alice et Hugo Humbert dans l'après-midi. Et dans la soirée, Grégoire Barrère, expédié par le Bulgare Grigor Dimitrov, Richard Gasquet, surclassé par l'Espagnol Roberto Bautista Agut, et Gilles Simon, qui s'est bien battu, mais qui a été dominé en 4 manches par le jeune Canadien 11e mondial, Denis Shapovalov. Chez les dames, 2 de chute, Kristina Mladenovic et la jeune Harmony Tan, une qualifiée tout de même. même Fiona Ferro qui a sauvé l'honneur tricolore en attendant la doyenne Pauline Parmentier qui vient seulement maintenant d'entamer son match sous les projecteurs face à elle, la Russe Veronika Kudermetova, Parmentier 34 ans, dont c'est le tout dernier tournoi de sa carrière. Et elle mène dans la première manche de jeux à un service à suivre.
Eh bien merci Eric Mamrut, en direct de Roland-Garros. C'est ainsi que s'achève le journal En France est facile. Très bonne fin de soirée à tous sur RFI.
Bonjour.